Je vous invite à la prière. Oui Seigneur, nous voulons te remercier pour ce temps que nous pouvons mettre à part pour entendre ta parole. Seigneur, tu as des choses à nous dire. Tu as aussi des choses à dire à nos enfants. Nous voulons te les recommander à ta grâce aussi, Seigneur, pendant le temps d'enseignement qu'ils vont avoir. Je te prie pour les moniteurs, les monitrices que tu as déjà désignés pour cela. Seigneur, que nos enfants puissent recevoir ta parole et que cette parole puisse germer, Seigneur, dans leur cœur, qu'ils puissent la garder, qu'un jour aussi, ceux qui n'ont pas encore donné leur vie, puissent le faire. Seigneur, et aujourd'hui aussi, te prions que tu éclaires notre intelligence par ton Esprit Saint, que tu ouvres nos cœurs, Seigneur, afin d'entendre et de recevoir efficacement ta parole. Parle-nous, Seigneur, que tu fasses silence vraiment, que nous puissions être interpellés ce matin et que cela puisse être suivi de résolutions pratiques pour chacun d'entre nous, pour l'avancement de ton règne, pour l'édification de ton Église, dans le nom précieux de Jésus. Amen. Bien, bonjour à tous et bonne fête au papa. Ça fait toujours plaisir d'être là parmi vous. Tout à l'heure, Jérémie a déjà plus ou moins dévoilé, entre guillemets, le thème qui sera traité. Et effectivement, vous savez que parmi toutes les créatures, seul l'être humain a été créé à l'image de Dieu. Seul l'être humain a été créé à l'image de Dieu. Et parmi les caractéristiques propres de l'homme, de la femme, il y a cette faculté de parler. Ce don de la parole. L'homme a été doué de parole, lui permettant de communiquer avec ses congénères, ses semblables, mais aussi de communiquer et de communier avec son Créateur, avec Dieu, notamment par la prière. L'homme et la femme sont les seules créatures capables de se faire comprendre de manière intelligible. Les animaux ne le peuvent pas, même s'ils ont leur langage propre. Ils ont plutôt des sons, des codes sonores, plutôt qu'un langage structuré et complexe comme le langage humain. Et est-ce que vous connaissez l'organe qui permet de nous exprimer ? Le larynx, dit Pierre. Oui, sans le larynx, on ne parle pas, mais c'est surtout la langue. Si nous n'avons pas de langue, même si nous avons un larynx, nous ne parlerons pas. Et il sera impossible sans la langue d'émettre la moindre parole. Et sans le don de la parole, ben nous serions isolés. Alors la question est de savoir, en tant qu'enfant de Dieu, en qualité d'homme et de femme créés à l'image de Dieu, comment utiliser notre langue. Vous savez que depuis deux dimanches maintenant, nous suivons une prédication, faisons une prédication suivie sur l'épître de Jacques, hein. Le chapitre 1 et le chapitre 2 ont déjà été traités respectivement par Michaël et Joël. Et je vous propose ainsi ce matin de continuer dans ce sens et de lire un passage qui, je l'espère, nous éclairera sur le sujet qui se trouve donc dans Jacques, chapitre 3, versets 1 à 12. Nous allons lire dans la version du semeur. Tu peux cliquer. Mes frères, ne soyez pas nombreux à enseigner. Vous le savez, nous qui enseignons, nous serons jugés plus sévèrement. Car chacun de nous commet des fautes de bien des manières. Celui qui ne commet jamais de fautes dans ses paroles est un homme parvenu à l'état adulte, capable de maîtriser aussi son corps tout entier. Quand nous mettons un mort dans la bouche des chevaux pour qu'ils nous obéissent, nous dirigeons aussi tout leur corps. Pensez encore aux bateaux. Même s'il s'agit de grands navires et s'ils sont poussés par des vents violents, il suffit d'un tout petit gouvernail pour les diriger au gré du pilote. Il en va de même pour la langue. C'est un petit organe. Mais elle se vante de grandes choses. Ne suffit-il pas d'un petit feu pour incendier une vaste forêt? La langue aussi est un feu. C'est tout un monde de mal. Elle est là, parmi les autres organes de notre corps, et contamine notre être entier. Allumée au feu de l'enfer, elle enflamme toute notre existence. L'homme est capable de dompter toutes sortes de bêtes, de sauvages, d'oiseaux, de reptiles, d'animaux marins, et il les a effectivement domptés. Mais la langue, aucun homme ne peut la dompter. C'est un fléau impossible à maîtriser. Elle est pleine d'un venin mortel. Nous nous en servons pour louer le Seigneur, notre Père, et nous nous en servons aussi pour maudire les hommes, pourtant créés pour être ceux qui lui ressemblent. De la même bouche sortent malédiction, bénédiction et malédiction. Mes frères, il ne faut pas qu'il en soit ainsi. Avez-vous déjà vu de l'eau douce et de l'eau salée jaillir d'une même source, par la même ouverture? Un figuier, mes frères, peut-il porter des olives ou une vigne, des figues? Une source salée ne peut pas non plus donner de l'eau douce. Voilà, nous allons nous arrêter là pour la parole d'aujourd'hui. Alors, ce matin, je vous propose un thème, maîtriser sa langue, un défi de taille. Et je vous propose une réflexion sur ce petit organe qu'est la langue, sur la nécessité de contrôler cette langue en dégageant trois affirmations sur cette langue-là afin de nous aider à maîtriser nos paroles. Alors, première affirmation, la langue a un grand pouvoir. Au premier verset de ce chapitre que nous avons lu, donc au chapitre verset 1, eh bien, Jacques s'adresse en premier lieu aux personnes qui enseignent ou qui aspirent à enseigner. Il faut savoir que la culture juive de l'époque accordait une place très importante à l'enseignement. Et apparemment, parmi les destinataires de cette épître, un grand nombre de chrétiens voulaient justement enseigner. Parce que le titre de rabbin, le titre de docteur, le statut apostolique faisait l'admiration, hein, et beaucoup voulaient ressembler à ces gens éminents. Mais Jacques veut faire comprendre que le ministère d'enseignement ne doit pas être pris à la légère. Même s'il est bon d'aspirer à cette fonction, ça entraîne une grande responsabilité d'enseigner. Les actes et les paroles vont certainement affecter, d'une manière ou d'une autre, influencer la vie spirituelle des auditeurs. Pour peu qu'un orateur, par exemple, ait un grand pouvoir, un grand charisme, je veux dire, parfois les gens gobent, entre guillemets, excusez-moi pour le terme, mais c'est là que Jacques, justement, fait la remarque sur l'importance de la maîtrise de sa langue. La langue a donc un rôle primordial, d'abord pour ceux qui sont appelés à un ministère de parole, bien sûr, comme la prédication, les études bibliques, l'école du dimanche, etc. Et Jacques ajoute qu'ils seront jugés plus sévèrement, ça doit nous faire réfléchir. Mais l'apôtre ne pointe pas seulement le doigt sur ses prétendants à l'enseignement. Il affirme « nous bronchons tous de toutes les manières ». Ça veut dire que tout le monde pêche, même Jacques. Et dans le mécanisme qui conduit au péché, la langue a une grande responsabilité. Notre sanctification dépend en grande partie de la manière dont notre langue est utilisée. Ce qui veut dire que notre langue, si petite soit-elle, a effectivement un grand pouvoir. Et Jacques utilise trois images pour illustrer cette réalité. D'abord, il utilise le mort au cheval. Quand nous mettons un mort dans la bouche des chevaux pour qu'ils nous obéissent, nous dirigeons aussi tout leur corps. Alors, s'il y a un cavalier ici, je sais qu'il y en a au moins une, il va certainement nous confirmer que sans le mort dans la bouche du cheval, il sera impossible de le contrôler. Vrai ou pas vrai? Est-ce qu'il y a une cavalière ici? C'est vrai, Aurélie? À moitié. Alors, ça dépend du cavalier, bien sûr. Le mort permet au cavalier, en fait, de faire avancer son cheval, tourner à gauche, à droite, de le faire arrêter aussi quand on veut. Peut-être pas toujours. Il y a aussi notre image, le gouvernail. Alors, à l'époque, les gouvernails, c'était une petite pièce comme ça, des barques, n'est-ce pas? Il suffit d'un tout petit gouvernail d'y dit Jacques, pour le diriger, diriger les bateaux au gré des pilotes. Alors de nos jours, on peut aussi penser par exemple aux manches à balai dans les gros avions, n'est-ce pas ? Un petit truc comme ça, une petite poussée, une traction à gauche, à droite, suffit à diriger, à faire changer de direction un mastodonte de plusieurs tonnes. Troisième image, la petite flamme, petit feu. Ne suffit-il pas d'un petit feu pour incendier une vaste forêt ? Vous savez, à l'approche de l'été, les pompiers, notamment de la région du sud, du sud-est de la France, sont chaque année sur le qui-vive, hein, ils stressent, redoutant les incendies de forêt de pinèdes, si fréquents et qui sont souvent attisés par un vent violent qu'on appelle le Mistral. Et il n'y a pas si longtemps, je crois que c'est au Portugal, c'est hier, hein, il y a eu un incendie très 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 important qui a fait des victimes. Et souvent, un incendie. Voilà, un incendie est dû à quelque chose d'insignifiant. Peut-être une allumette mal éteinte, un mégot de cigarette mal éteint. Et c'est vraiment l'incendie qui ravage des hectares et des hectares de forêt. Et en comparant la langue à ces trois images, Jacques veut donc faire comprendre à ses lecteurs que la langue est un organe très redoutable, doté d'un grand pouvoir. Et un simple mot peut suffire à être décisif. Un simple oui ou un simple non. Un simple mot peut sauver quelqu'un de la peine de mort, par exemple. Un simple mot peut décider d'une guerre entre deux nations. Un simple mot peut briser des cœurs. De quelqu'un qui est amoureux, par exemple, qui reçoit une réponse négative de la jeune fille ou du jeune garçon. La langue est petite mais puissante. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette pub. Des petits bonbons d'une marque bien connue. C'est vieux hein, comme pub, mais le petit bonbon se vante d'être petit, petit mais costaud. Petit mais costaud. Alors, la deuxième affirmation, c'est que la langue, quand elle est mal utilisée, peut devenir un poison dangereux. Et Jacques, il dit vraiment, la langue est un feu aussi, c'est tout un monde de mal. Elle est là, parmi les autres organes de notre corps, elle contamine notre être entier. Allumée au feu de l'enfer, elle enflamme toute notre existence. C'est une autre réalité qui concerne notre langue, un poison qui peut gâcher toute une existence, qui peut polluer toute une assemblée. Et malheureusement, dans des églises, il arrive qu'une rumeur se répande concernant telle ou telle personne, tel ou tel groupe de personnes. Et ça commence souvent par une critique à l'endroit d'un frère, à l'endroit d'une sœur, infondée ou fondée, qu'importe, mais une critique qu'on n'a pas le courage de communiquer directement à la personne concernée. Alors on en parle d'abord aux autres. En leur demandant de ne pas répandre la nouvelle, et bien finalement, qu'est-ce qui se passe ? Tout le monde est au courant, sauf la personne concernée. Alors je ne dis pas qu'il ne faut pas agir s'il y a une attitude condamnable ou qui porte un préjudice dans l'Église, mais il convient d'agir avec sagesse. Soit en partageant nos craintes directement aux intéressés, soit en informant les responsables de l'Église qui prendront à leur tour la responsabilité. Mais ne pas répandre comme ça des rumeurs, des ragots. Rien de plus dangereux dans l'Église que l'esprit de critique et les rumeurs. Alors on raconte qu'une femme, poursuivie dans ses pensées d'avoir répandu une rumeur dans l'Église, cette femme va voir son pasteur pour lui demander comment réparer ses torts et comment soulager sa conscience. Alors après quelques instants de réflexion, le pasteur répond: Madame, munissez-vous d'un sac de plumes. Rendez-vous sur le clocher de l'église et videz le sac de plumes et ensuite revenez me voir. Donc la femme s'exécute, elle fait comme le pasteur lui dit de faire et revient le voir quelques instants plus tard. Et le pasteur lui dit: Allez, maintenant vous allez récupérer toutes les plumes dans les rues de la ville. Et la femme a compris avec amertume que la rumeur était comme un tort irréparable. Et que seule la grâce de Dieu pouvait restaurer la situation. Frères et sœurs, puisse le Seigneur nous préserver de répandre des rumeurs, qu'elles soient fondées ou infondées, dans notre Église. La langue est un organe qui gâche tout quand elle est mal utilisée, quand il est mal utilisé. On dit qu'un coup de langue est pire qu'un coup de lance. Ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'on peut tuer avec notre langue. Ça veut dire qu'on peut briser toute une vie avec notre langue. Ça veut dire qu'on peut ruiner toute une réputation avec notre langue. Et la parole de Dieu l'a bien compris par la bouche d'un auteur, le Proverbe 18-21. Il dit « La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. » C'est quelque chose de très fort, c'est une image très forte. « Vous aurez à vous rassasier des fruits que votre langue aura produit. » Il n'y a pas si longtemps, le tout nouveau président de la République française, en privé, il s'est laissé aller à une petite plaisanterie. Il a voulu certainement anodine, mais qui a créé une polémique internationale, qui a été très très mal pris. Parce que ses propos ont été perçus et ont été rendus publics. Hein, vous savez, les médias sont à l'affût de toute langue qui fourche du côté de nos responsables politiques. Et il a failli y avoir un incident diplomatique. Donc la langue peut aussi créer un incident diplomatique qui peut prendre une grande ampleur. Alors maintenant, il se peut que malgré notre bonne volonté, même si on veut dire de bonnes choses, peut-être que nous faisons quand même du mal à cause de nos paroles. Pourquoi ? Parce que ça dépend de la manière dont on dit les choses. Ça dépend des expressions qu'on utilise. Ça dépend aussi des sentiments qui nous animent au moment où nous parlons. Si nous voulons communiquer une information ou si nous voulons communiquer une conviction personnelle, même si nos arguments à nos yeux sont fondés, si nous les exprimons avec des sentiments de colère, des sentiments d'arrogance, des sentiments de condescendance, d'orgueil, etc., eh bien nos paroles, même si elles ont un bon fondement, auront pour effet de blesser plutôt que de convaincre ou d'édifier. Au verset 8, Jacques fait donc cette triste constatation. Mais la langue, aucun homme ne peut la dompter. C'est un fléau impossible à maîtriser. Elle est pleine d'un venin mortel. Il n'y a donc rien à faire pour maîtriser nos paroles. La réponse est sans doute dans une troisième affirmation. Bien utilisée, la langue devient une source de bénédiction. Autant la langue peut être dangereuse, autant elle peut être une source de bénédiction. Tout n'est donc pas perdu. Il est donc possible d'utiliser notre langue pour la gloire de Dieu, d'autant que Dieu nous a fait don de la langue pour que nous l'utilisions uniquement pour bénir et non pas maudire les hommes qui ont été créés à son image. Jacques le dit dans le verset 9 de notre texte. Alors, comment arriver à utiliser notre langue pour la seule gloire de Dieu et pour le bien d'autrui? C'est là la question centrale ce matin. Comment utiliser notre langue pour la gloire de Dieu et pour le bien d'autrui? Alors, avant de répondre à cette question, il convient de nous rappeler d'une réalité essentielle. À savoir que depuis que le premier être humain a péché, a désobéi à Dieu, eh bien la créature tout entière est marquée par le péché, est marquée par le mal. La création tout entière, les créatures aussi, et l'homme y compris sa langue. Sa langue est marquée par le péché. Notre langue, frères et sœurs, est impure par nature. Et d'ailleurs, Ésaïe, le grand prophète, en présence de la sainteté de Dieu, dans Ésaïe chapitre 6, verset 5, son premier réflexe est de dire « Malheur à moi, je suis perdu. J'ai les lèvres impures. » Et j'habite au milieu d'un peuple qui a aussi des lèvres impures. À cause de notre nature pécheresse, à cause du fait que notre langue est marquée aussi par le péché, il n'est donc pas étonnant que de notre bouche sortent encore, hélas, des méchancetés, des calomnies, des injures, des propos grossiers, des plaisanteries douteuses, des blagues mal placées, des remarques désobligeantes, etc., etc. Mais Dieu ne veut pas que nous restions sur ce constat négatif. Et pour revenir à cette question, comment utiliser notre langue pour la seule gloire de Dieu et pour le bien d'autrui? Eh bien, il y a quelques pistes à considérer ce matin. La première piste, c'est d'être d'abord conscient de la volonté de Dieu concernant notre langue. Plusieurs passages de la Bible nous éclairent à ce sujet. Je n'ai pas compté combien, il y en a beaucoup, mais je vais en citer juste 5. Psaume 71, verset 8. « Que ma bouche soit remplie de tes louanges, que chaque jour elle te glorifie. » Méditons ces passages. Comment est-ce que nous nous situons par rapport à cela? Celui qui veille sur sa bouche et sur sa langue préserve son âme des angoisses. Ne laissez aucune parole blessante franchir vos lèvres, mais seulement des paroles empreintes de bonté, qu'elles répondent à un besoin et aident les autres à grandir dans la foi. Ainsi, elles feront du bien à ceux qui vous entendent. Éphésiens 4, verset 29. Que votre parole soit toujours empreinte de la grâce de Dieu, pleine de saveur pour savoir comment répondre avec propos à chacun. Colossiens 4, 6. De la même bouche, nous venons de le lire, sortent malédiction et bénédiction, mes frères, il ne faut pas qu'il en soit ainsi. Désolé, ça a été coupé sur l'écran. Jacques chapitre 3, verset 10. Donc la volonté de Dieu est donc clairement que nos paroles soit avant tout des paroles de bénédiction, des paroles qui édifient notre prochain. Donc, être conscient de la volonté de Dieu dans sa parole. Deuxièmement, savoir s'humilier. Je ne sais pas si vous connaissez Alain Choitier. Je sais que quelqu'un d'ici le connaisse. C'est un évangéliste qui est bien connu du monde évangélique français. Aujourd'hui, il est déjà décédé, il est auprès du Seigneur. Il racontait que dans un premier temps, son église, qui était donc l'église des nations, pour ceux qui connaissent cette église, son église avait des difficultés à progresser. Elle semblait stagner et voire régresser, et notamment à cause de problèmes relationnels dans l'église, des tensions entre personnes, des problèmes de communion fraternelle. Et le conseil d'anciens a cherché à savoir d'où venait le problème. Ils ont remis ça entre les mains du Seigneur. Et le Seigneur leur a montré que, en fait, pendant leur réunion, les responsables passaient le plus clair de temps à critiquer les autres. Critiquer. À parler des uns et des autres, mais sans prendre le temps de demander à Dieu de leur montrer les bonnes résolutions. Sans prendre le temps de demander à Dieu la sagesse pour faire avancer les choses. Dieu leur a montré clairement cela. Et ils ont été convaincus par le Saint-Esprit de demander d'abord pardon à celles et ceux qu'ils ont critiqués. Ils ont pris le temps de le faire. Et le réveil n'a pas tardé. Acceptons avec humilité que notre langue est mauvaise, qu'elle est impure devant la sainteté de Dieu, comme l'a fait Ésaïe. Et s'il le faut, demandons pardon pour nos paroles maladroites. Demandons pardon pour nos paroles inconséquentes qui ont pu faire des ravages autour de nous. Ayons le courage d'aller les uns vers les autres. Aujourd'hui même, c'est un défi. On pourra par exemple dire, voilà, depuis que je te connais, depuis que nous nous connaissons, je t'ai déjà dit pas mal de méchanceté. Est-ce que tu veux bien me pardonner aujourd'hui? Frères et sœurs, est-ce qu'on ne pense pas qu'une telle démarche peut débloquer bien des choses? Est-ce qu'on ne pense pas que ainsi des cœurs meurtris peuvent enfin trouver le chemin de la guérison? Demander pardon, avoir le courage. Nous sommes tellement pleins d'orgueil que nous ne voulons pas le faire. Ce que nous l'avons dit, tant pis pour les conséquences. Est-ce là notre manière de voir les choses? Même si le frère, même si la sœur a été blessé. Si nous sommes chrétiens, une des responsabilités, de nos responsabilités, c'est de rechercher ce qui contribue à la paix et à l'édification mutuelle. Dans Romains chapitre 14, verset 19. Et cela passe par la démarche qui consiste à s'humilier et à reconnaître nos torts. Donc nous avons des responsabilités vis-à-vis du passé, c'est-à-dire vis-à-vis de ce que nous avons fait. Demander pardon, s'humilier. Mais nous avons aussi des responsabilités vis-à-vis du présent et de l'avenir. En tenant notre langue au quotidien dans l'obéissance, en demandant au Seigneur de diriger notre langue. Il y a aussi un autre point important, c'est de ne pas compter sur ses propres efforts. La maîtrise de notre langue, chers amis, s'inscrit pleinement dans notre processus, ce qu'on appelle la sanctification. Si nous nous soumettons au Saint-Esprit qui vit en nous, eh bien celui-ci nous aidera à mieux utiliser notre langue en nous purifiant d'abord à l'intérieur de nous-mêmes. Il ne s'agit pas de se forcer à dire de belles paroles, d'avoir une langue de bois, comme on dit, mais être d'abord transformé au plus profond de notre cœur. La parole de Dieu dit dans Luc 6, 45 que ce que l'on vient dit de ce qui remplit le cœur. Qu'est-ce qui remplit notre cœur? Est-ce la colère? Est-ce la rancune? Est-ce l'arrogance? Est-ce l'amertume, la jalousie, l'orgueil, la convoitise, etc., etc. Si tel est le cas, ben cela se traduira immanquablement un jour ou l'autre au niveau de nos paroles. Et si tel est le cas, nous avons besoin de nous laisser continuellement transformer par le Saint-Esprit qui est en nous et d'être renouvelés dans notre pensée. Il y a un passage dans Romains chapitre 12, verset 2 qui nous éclaire à ce sujet, qui dit « Laissez-vous transformer ». Ne pas compter donc sur ses propres efforts, mais aussi réfléchir avant d'ouvrir notre bouche. Essayons de nous faire un petit test, nous demander ce que nous allons dire ou même écrire est utile. Appliquons nos paroles d'abord à nous-mêmes. Appliquons d'abord nos paroles à nous-mêmes avant de parler aux autres. Ah. Est-ce que ça va mieux? Ça va? Vous savez, souvent la colère est mauvaise conseillère. C'est la raison pour laquelle l'apôtre Paul dit que le soleil ne se couche pas sur votre colère, dans Éphésiens 4, 6. Quand on parle ou quand on répond à chaud, sous l'effet de la colère par exemple, eh bien, nos paroles peuvent conduire au désastre. Et demandons donc à Dieu toute la sagesse pour mettre dans nos paroles de l'amour, de la compréhension, d'avoir aussi un ton apaisant. Et parfois, dans certaines situations, il vaut mieux se taire plutôt que de parler. Excusez-moi ce terme un peu vulgaire que j'allais dire. Il vaut mieux la boucler, parfois. Ah. Je demande... Voilà.
Mamie, il faut absolument que je te raconte quelque chose. Tu sais, un de tes amis...
Stop. As-tu passé ce que tu désires si ardemment me communiquer par les trois cribles?
Qu'est-ce que tu veux dire?
Le premier crible, c'est celui de la vérité. Ce que tu as à me dire, est-ce absolument vrai?
Je le pense. Mais enfin, je ne l'ai pas vu de mes propres yeux. C'est quelqu'un qui m'a confié en me promettant de garder le secret que...
Le deuxième crible, c'est celui de la bonté. Ce que tu vas me dire, est-ce une chose bonne? Est-ce que ce sont des paroles de bénédiction?
Pas précisément. Plutôt le contraire.
Le troisième crible est enfin celui de la nécessité. Est-il absolument indispensable que je sache ce qui semble te mettre dans un tel émoi?
Indispensable? Non, pas tout à fait. Mais enfin, je pensais...
Eh bien, mon ami, si ce que tu as à me dire n'est ni indispensable, ni charitable, ni incontestablement vrai, alors pourquoi le colporter? Efface-le de ta mémoire et parlons de choses plus sages. Merci, Nérit. Alors c'est un dialogue qu'on a appelé les trois cribles de Socrate, ou les trois tamis de Socrate, que l'on prête donc à ce grand philosophe grec du 5e siècle avant Jésus-Christ. Alors certes, ce n'est pas un texte de la Bible, hein, mais qui doit néanmoins nous faire réfléchir et nous encourager à tourner cette fois notre langue. Ça aussi c'est un proverbe, pas dans la Bible, hein, tourner cette fois notre langue dans notre bouche avant de prononcer des paroles, quitte à s'abstenir de parler. Alors en conclusion, dans ce passage, chers amis, l'apôtre Jacques a identifié la langue comme un élément central, un indicateur révélateur de la réalité de l'intérieur de chaque être humain. Et par ailleurs, la parole de Dieu nous dit aussi que nous aurons le jour du jugement à rendre compte de chacune des paroles sans fondement que nous aurons prononcées. Matthieu 12, 36. C'est une invitation à ne pas prendre à la légère la façon dont nous nous exprimons oralement ou même par écrit. Considérons Jésus, notre Seigneur. Lui, Jésus, que la Bible présente comme étant la parole de Dieu, incarné dans Jean chapitre 1, il a prononcé à chaque fois des paroles qui ont transformé la vie des hommes et des femmes qui les ont reçues. Il a dit « Lève-toi et marche ». Il a dit « Sors ». Il a dit « Ta foi t'a sauvé ». Il a dit « Tu seras avec moi au paradis » et j'en passe. Mais autant de paroles qui ont eu pour conséquence la vie, la guérison, le salut, le pardon. Alors nous n'avons pas le pouvoir de Jésus ou le pouvoir de ressusciter les morts, etc. Mais nous avons la responsabilité de maîtriser notre langue afin que les paroles qui sortent de notre bouche soient des paroles de bénédiction, qui font du bien, qui édifient les gens autour de nous. Si nous désirons sincèrement, frères et sœurs, que notre bouche ne produise que de l'eau douce, laissons en premier lieu Dieu nous purifier intérieurement, avant toute chose. Laissons le Saint-Esprit sonder notre cœur. Mettons-nous à son écoute, à l'écoute de Dieu, à l'écoute de sa parole, en méditant la Bible. Parce que nous avons besoin de croître dans la foi, nous avons besoin de discerner la volonté de Dieu dans sa parole. Mais aussi en nourrissant nos pensées. Parce que ce sont les pensées aussi. Nos paroles sont le reflet aussi de nos pensées. L'apôtre Paul dit dans Philippiens 4:8 que tout ce qui est vrai, noble, juste, pur, digne d'amour ou d'approbation, de tout ce qui mérite respect et louange, soit l'objet de vos pensées. Car en fin de compte, effectivement, nos paroles reflètent l'état de notre cœur. Dans une de ses épîtres, l'apôtre Paul demande d'offrir nos membres à sa disposition, à la disposition de Dieu donc, comme des armes au service du bien. Romains 6, 13. Et si aujourd'hui nous prenons cette résolution, pardon, en l'appliquant à tous nos membres et particulièrement à notre langue, eh bien, le Seigneur nous aidera à maîtriser notre langue. Prenons cette résolution. Seigneur, ce matin, j'offre ma langue à ta disposition comme une arme au service du bien, comme un instrument de bénédiction entre tes mains. Mets un frein, Seigneur, à ma langue quand il le faut, afin que de ma bouche sortent des bonnes paroles, des paroles qui édifient. Et que nous puissions dire aussi comme David, ces deux derniers versets, « Que ma bouche, ô Éternel, reste sous ta surveillance, veille aux portes de mes lèvres. » Psaume 141, 3. Et aussi le psaume 19, verset 15, « Reçois favorablement les paroles de ma bouche et les sentiments de mon cœur. » Seigneur, nous te remercions pour ta parole qui nous parle encore aujourd'hui et qui nous interpelle vraiment sur l'état de notre cœur et sur les paroles que nous prononçons, que nous avons prononcées aussi dans le passé et qui ont pu faire du mal. Seigneur, nous voulons nous humilier devant ta face, te demander pardon pour toutes les fois où notre langue a choqué notre prochain, pour toutes les fois où nos paroles ont fait du mal, ont vexé, ont frustré. Et Seigneur, nous n'avons pas agi avec sagesse et nous le reconnaissons. Et merci Seigneur, par ton esprit, de nous transformer, de continuer ton œuvre de purification dans notre cœur. Nous voulons vraiment nous laisser transformer par toi. Afin, Seigneur, que nous soyons des instruments, non pas de malédiction, mais des instruments de bénédiction, et que notre langue, Seigneur, puisse vraiment être exercée à ta gloire. Merci Seigneur. Aide-nous en sachant que nous ne pouvons pas, Seigneur, y arriver par nos propres efforts. Nous avons besoin de ton esprit pour nous diriger. Merci Seigneur d'avance pour tout ce que tu vas faire. Et je te prie vraiment que tu mettes en nous cette conviction. S'il y a aujourd'hui, Seigneur, un frère ou une sœur à qui je dois demander pardon pour mes paroles déplacées, mes paroles inconsidérées, Seigneur, que ce soit l'occasion pour moi de le faire. Que chacun de nous puisse être touché par ton esprit afin de faire ce pas important pour l'avancement de ton Église, pour l'édification du corps de Christ et pour ta gloire. Dans le nom de Jésus. Amen. Alors, je vous invite à chanter un chant qui dit...